France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Je suis née dans le 12e arrondissement de Paris. Et j'ai été élevée à 25 km de là dans un pavillon en pierre de banlieue. Donc j'ai fait le chemin inverse de nos invités. La fin de mes études et le début de ma vie professionnelle m'ont fait quitter Paris. Pour y revenir, Paris c'était la radio nationale bien sûr, mais c'était aussi chez moi. Nos invités, comme vous peut-être, sont passés par Paris parce que les études, la carrière, les opportunités plus nombreuses, parce que pour beaucoup c'est le passage obligé ou qu'il faut avoir essayé. Et puis après 10 ans, 15 ans, ils sont revenus vivre dans la ville ou le village qu'ils avaient laissé. C'est Connemara, notre téléphone sonne, le film qui sort après le livre de Nicolas Mathieu qui lui-même est retourné dans sa Lorraine. Ça veut dire que rentrer c'est pas aller là où il fait beau, où les paysages sont plus beaux qu'ailleurs, où on peut faire du ski ou de la plage le week-end, ça veut dire rentrer chez soi, répondre peut-être à un besoin d'ancrage. Mais qu'est-ce qu'on trouve en rentrant? Que sont-ils devenus les amis d'avant, ceux qui ne sont pas partis? Qu'est-ce qu'on partage encore? Est-ce qu'on partage encore quelque chose? Peut-être que vous avez un nouveau cercle d'amis, si c'est votre cas, peut-être que ça vous étonne vous-même, nous en parlerons. Est-ce qu'on vous félicite d'être rentré ou est-ce que le premier réflexe est de vous demander quel accident de la vie vous ramène au bercail? Est-ce que c'est un sacrifice de carrière? Est-ce qu'au contraire, une entreprise locale valorise l'expérience parisienne avant? Est-ce que revenir, c'est courir après son enfance? Attention au piège, on a parfois une image idéalisée des lieux où on a grandi. 20 ans après, le réel, souvent, c'est quand on se cogne, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que, quoi que vous fassiez, est-ce qu'on vous appelle toujours la Parisienne ou le Parisien alors que vous êtes né à 10 km? Eh bien, vous allez nous le raconter. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Léa, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
On vous
écoute. Merci France Inter pour vos émissions. Moi, je suis partie du Cantal. J'ai grandi dans le Cantal et je suis partie 10 ans pour mes études en architecture et puis pour commencer à travailler. Et je suis revenue à 6 ans quand j'étais enceinte de ma fille aînée. En fait, moi, je ne me voyais pas du tout élever des enfants à Paris. Je voulais leur offrir la même enfance que moi j'avais eue. À la campagne, au grand air, entouré de forêts. Et donc, on est revenu avec mon conjoint, qui est aussi architecte. Mmh. On a créé notre entreprise. Donc, on est reparti un peu de zéro professionnellement. On s'est refait un réseau. Et voilà, j'ai retrouvé quelques amis d'enfance, mais il y a quand même un décalage. Il y a un décalage parce que je suis une des seules à être partie. Mmh. Et finalement, je sens que je passe un peu pour la donneuse de leçons qui a vu autre chose. Qui a vu d'autres fonctionnements, d'autres manières de penser. Mmh. Et ça, je trouve que c'est un peu difficile.
Est-ce que même au bout de 6 ans, en fait, ce fossé-là, vous n'avez pas réussi à le combler finalement, Léa?
Non, c'est même bon, au bout de 6 ans, parce que je ne retrouve pas des gens qui me ressemblent vraiment autour de moi ici. Après, la qualité de vie, je l'ai retrouvée. La vie à la campagne, je l'offre à mes enfants et pour ça, je ne regrette pas du tout. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a un certain isolement, un petit peu.
Ah ouais, c'est intéressant. Est-ce que c'est vous qui avez changé, à votre avis, ou est-ce que c'est justement le village qui n'a pas changé et vous l'avez retrouvé comme il était, et comme il était, c'était 15 ans en arrière?
Exactement, c'est les gens qui n'ont pas changé. C'est moi qui ai vu d'autres choses, d'autres manières de fonctionner et j'ai parfois envie d'apporter des choses ici. Mmh. Mais ça passe pas, les messages passent pas et je passe vraiment oui pour la donneuse de leçons,
ouais,
c'est sûr.
Ouais. Je vois très bien notre invité, vous direz que vous passez pour celle qui boit des cappuccinos à 7 € avec un cœur dessus sur la mousse, Léa. Du coup, j'ai une question, vos enfants que vous êtes heureuse, j'ai bien compris, d'élever là au grand air. Est-ce que l'un des messages que vous leur donnerez quand ils auront grandi, c'est quelque chose du genre « va voir ailleurs quand même, quitte à revenir, mais va voir ailleurs, tu verras que tout n'est pas pareil qu'ici ».
Ouais, bien sûr. Mm-hmm. Et puis je le fais déjà. J'essaie de les emmener dans plein d'endroits. Elles sont ouvertes à plein de choses, plus que certains enfants d'ici. Mm-hmm. Mais oui, bien sûr, je les encouragerai toujours à partir et à avoir plein de manières de fonctionner différentes. Mm-hmm. C'est beaucoup plus enrichissant.
Bah écoutez, Léa, merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses dans le Cantal. Malgré tout, merci pour cette entrée en matière, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Pauline Rochard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultante spécialiste des mutations du travail. Vous avez écrit Ceux qui reviennent chez Payot, qui vient de sortir là, et vous, votre chemin inverse, votre chez vous, c'était Dunkerque.
Oui.
Et c'est à Dunkerque que vous êtes rentrée. Il y a Damien Deville qui est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en géographie, vous êtes conférencier. Vous, votre région, c'est Laval. C'était chez votre grand-mère, la Sarthe. Vous nous raconterez ce qui vous y a ramené et ce que sont les attaches qui étaient les vôtres. En tout cas, vous aussi, vous avez fait ce chemin-là, en l'occurrence vers la Sarthe. J'ai retrouvé dans ce que dit Léa, Pauline Rochard, beaucoup de choses de ce que j'ai lu chez vous, en fait. Elle est très familière, finalement, Léa.
Oui, absolument. Alors moi, j'ai effectivement, dans ceux qui reviennent, j'ai mené l'enquête auprès de celles et ceux qui ont choisi de revenir dans leur territoire d'origine. Mm-hmm. Mais j'ai aussi interrogé ceux qui étaient restés, parce mm-hmm. que ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le regard de ceux qui restent mm-hmm. sur ceux qui reviennent. Ouais. Et voilà, cette question que pointe l'auditrice, est-ce qu'on peut encore trouver quelque chose qui nous rassemble et qu'est-ce qui nous rassemble ? Et je trouve que dans son témoignage, il y a déjà plusieurs choses qui éclairent notre sujet. Le premier, c'est que... Enfin, la première chose, c'est que la mobilité, elle est quand même assez structurée par rapport au niveau de diplôme. Mmh. Moi, j'ai effectivement interrogé des personnes qui sont revenues, et les personnes qui sont revenues sont souvent celles qui sont parties déjà de leur région d'origine, et souvent, ce qui nous pousse à partir, c'est soit le fait de faire des études un peu plus loin que là où on a grandi, puis ensuite de trouver du travail, et comme on vit dans un pays très centralisé où vous-même, vous l'avez dit Fabienne en introduction, que Paris concentre un certain type d'emploi et donc d'opportunités de carrière, etc., c'est un passage parfois obligé. Et donc, quand on revient, on peut effectivement se retrouver des gens qui n'ont pas eu l'opportunité de bouger ou qui n'ont pas voulu bouger. Parfois, c'est aussi un choix. Mais il y a parfois cette tension entre ceux qui sont diplômés et ceux qui le sont moins. Et on sait que ça raconte plein de choses dans les différentes manières de vivre, de façon de voir le monde.
Et en même temps, on va donner la parole à Damien Deville dans un instant, mais Pauline Rochard, moi, il y a quelque chose qui m'a frappée dans votre livre, parce que vous dites, j'ai moi-même observé que depuis mon retour à Dunkerque, je ne m'étais pas forcément liée d'amitié avec des personnes sur lesquelles j'aurais parié en arrivant. Et en fait, il y a cette idée que essayer de retrouver ses amis d'enfance, au fond, peut-être que c'est vain, ça. Peut-être que c'est une espèce de fantasme de retrouver la même relation qu'avec sa copine de CM2. Mais on est très étonné de l'autre cercle qu'on forme. En tout cas, vous, c'est votre étonnement en rentrant à Dunkerque.
Oui, c'est exactement ça. Je pense que l'intérêt... Les personnes que j'ai interrogées m'ont beaucoup dit, en quittant Paris et en revenant chez moi, finalement j'ai vécu une expérience de décentrement. C'est-à-dire qu'en quittant Paris ou les grandes métropoles, où souvent on a tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent, et donc si on est très diplômé ou cadre, et du coup on vit entre diplômés, entre cadres, et on partage la même vision du monde, les mêmes opinions politiques.
Qui est très paradoxal en fait. Les bulles de filtre, comme en sociologie ça s'appelle des bulles de filtre, sont beaucoup plus importantes dans la grande ville où on choisit ses amis, donc la famille choisie, c'est vraiment les amis qui pensent comme nous, dans une plus
dans
petite ville
ou dans les villes moyennes. Alors elles existent aussi, faut pas être complètement naïf non plus, mais elles sont moins évidentes, et donc de fait on se lie d'amitié avec des gens qui ne nous ressemblent pas et sur lesquels on n'aurait pas parié parce qu'on se serait pas dit qu'on allait devenir amis, mais c'est ça qui est intéressant.
Est-ce que c'est aussi votre expérience, Damien Deville ? Moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça marche pour l'amitié, mais du coup ça marche aussi pour ce qui est de la confrontation des idées politiques. Et ça aussi, c'est dans le livre de Pauline Rochard. Et des fois, en la lisant, je me suis dit, mais ça nous ferait tous du bien, en fait, de faire un peu exploser nos certitudes pour nous confronter à des gens. Et quand on habite un endroit plus petit, effectivement, on a moins le choix et c'est tant mieux, en fait.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui caractérise les grandes métropoles, vous l'avez bien dit, c'est que sur le papier, il y a plein de relations possibles. On peut vraiment vivre l'altérité. Mais justement, il y a tellement de possibles qu'on se met à fréquenter des gens qui sont comme nous. Dans un petit village, moi, je suis revenu vivre en ruralité, notamment. Et effectivement, on ne choisit pas son propre voisin, mais on est obligé de vivre avec lui au quotidien. Et donc, l'expérience de l'altérité, certes, offre moins de possibles à la campagne qu'en ville, mais se fait beaucoup plus intense pour chacun des possibles qu'on vit à l'intérieur de son territoire. Et ça, on n'en a pas trop l'habitude, je crois, de vivre avec cette altérité-là. Je crois que c'est un phénomène de société. En tout cas, c'est ce que je défends un petit peu dans mes recherches. C'est qu'au fond, ce qui caractérise les mondes contemporains, c'est qu'on a perdu un petit peu la conscience des lieux, quoi. On vit en Auvergne sans connaître les volcans. On vit chez moi dans le bocage sans bien connaître les haies et les chevaux. Et par extension, on connaît mal les héritages sociologiques de nos propres lieux. Je pense que retrouver comme ça le sentiment géographique, retrouver la conscience des lieux, peut être un outil pour dépolariser le débat public et peut-être à réapprendre à vivre ensemble.
Et c'est ça qui est intéressant, Damien Deville, parce que ça, pour le coup, Pauline Rochard, c'est dans votre livre, vous dites l'archipélisation dont on parle beaucoup en ce moment, c'est même des termes qui désormais sont vraiment compris de tous. Vous dites, moi, depuis ma chapelle à Dunkerque, en fait, moi j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça de l'archipélisation, précisément pour ces raisons-là, pour ce que vient d'expliquer Damien Deville. On n'est finalement pas si différents, même si on ne vient pas du tout des mêmes horizons, et il faut revenir pour s'en rendre compte.
Oui. Je pense que cette théorie de l'archipélisation ou ce discours sur les fractures territoriales, la polarisation, en fait, c'est un discours presque performatif. C'est-à-dire qu'à force d'en parler, on l'alimente et on se place soi-même dans un camp ou dans l'autre. Mm-hmm. Et en fait, on les monte un peu en épingle. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Il ne faut pas être naïf sur ce qui est en train de se passer dans le débat public. Il y a de la polarisation, mais dans des petites villes, dans les ruralités que j'ai explorées via cette enquête, les gens m'ont dit, mais Pauline, on vit ensemble, on vit quand même les uns à côté des autres, on fait des choses ensemble, on est investi dans l'assaut des parents d'élèves, dans un club de sport, on se lie d'amitié avec des voisins effectivement qui n'ont pas forcément nos opinions politiques, donc on vit des choses ensemble et ça se passe bien, enfin je veux dire, on peut ne pas être d'accord la question c'est ça, c'est comment on fait vivre le désaccord, comment on compose avec des gens qui ne nous ressemblent pas sur tous les pans et malgré ça, on vit ensemble.
Antoine est avec nous au standard. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
On vous écoute Antoine.
Oui, j'ai un peu le même témoignage que Léa, à savoir que j'ai grandi à Marseille, je suis parti pour mes études et j'ai continué à Paris dans des fonctions de cadre supérieur. Dans l'industrie, j'ai gravi les échelons, j'ai fait une certaine carrière et à l'arrivée du premier enfant, un peu le même profil que Léa, on a décidé de rentrer pour leur donner une meilleure qualité de vie. Puis l'accès à l'emploi, l'accès à un logement décent, compte tenu de ce qu'on voit sur Paris, c'était relativement impossible. Une proximité familiale aussi, et puis un noyau de famille qui était resté sur place. Donc pour toutes ces raisons-là, on a tout gagné. En revanche, c'est vrai que je déplore, et ça a été dit en début d'émission, je déplore que Paris concentre quand même un tiers du PIB français, que les écarts de salaire, c'est à peu près 10 000 euros par an sur ce type de fonction. Et l'emploi des cadres est 10 points de moins en région. Donc forcément, c'est là où bas blesse, malheureusement.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Antoine. Damien Deville, vous, en rentrant dans la Sarthe, est-ce que vous vous êtes dit « je sais ce que je vais aussi abandonner » en fait ? Est-ce qu'il y a une forme de sacrifice, finalement, notamment professionnel, pour rebondir sur ce que nous dit Antoine ou pas ?
Alors, je pense en toute transparence que nous, on a un petit peu triché, puisque vous savez qu'en Sarthe, alors vous avez cité Laval tout à l'heure, moi je suis plutôt du côté du Mans,
okay.
Mais Laval est en Mayenne, mais vous avez raison, hein. Sarthe, Mayenne et Maine-et-Loire, c'est une ancienne même province culturelle qu'on appelle le Maine, et je plaide d'ailleurs pour la réconciliation des trois départements. Le Mans, c'est à 50 minutes de TGV de Paris, c'est vrai qu'en retournant à la campagne, on dépendait de Paris, on avait ce choix. Mais effectivement, je pense qu'on quitte d'autres choses, notamment des perspectives d'évolution. Mm-mm. C'est-à-dire qu'on s'enchaîne un peu à l'emploi qu'on a déjà, en repartant vivre à la campagne. Et ça, pareil, hein, c'est un construit politique. Vous savez, il y a un chiffre qui existe qui illustre bien ça, c'est que les métropoles françaises, il y en a 15 aujourd'hui, c'est à peu près 50% de la population. Et pourtant, c'est 86% de la création d'emplois chaque année. Et là, on voit bien comment, en fait, les métropoles et Paris en premier chef, hein, dans un pays centralisé comme la France, a tendance à concentrer les opportunités. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de redistribution et ça peut passer par le courage entrepreneurial aussi, hein, par des gens qui retournent dans les territoires et qui portent des projets tout en cultivant le lien avec la ville. Ceci dit, je me permets d'amener une nuance. Je pense qu'il est un petit peu stérile dans le débat public. Peut-être suis-je trop sévère en disant ça, mais je l'assume, à dualiser, en fait, ville et campagne. Mm-hmm. Ça, moi, je le vois très bien chez moi. Les gens n'opposent pas la campagne à la ville du Mans. Au contraire, ils vivent des sociabilités qui dépendent de ces deux types d'espaces. Mm-hmm. Je pense que le véritable chantier citoyen, c'est de penser la redistribution des opportunités.
Pauline Rochard, vous avez triché en quelque sorte, pardon de le dire comme ça. Votre mari a changé de boulot, lui, pas vous en fait, parce que vous avez l'opportunité de faire beaucoup de télétravail. Et par ailleurs, effectivement, c'est un peu la même chose d'ailleurs quand on est au Mans ou à Laval, c'est pas loin. Un coup de TGV et vous pouvez aussi retourner voir votre employeur. Est-ce que ça veut dire que sans ça, vous n'auriez pas fait ce choix-là ou pas ? Le choix de rentrer ?
En tout cas, ça pose effectivement des questions sur le type d'emploi qu'on veut continuer d'occuper et les opportunités sont moins nombreuses. Moi, je suis en accord avec ce que dit Damien. Il y a un enjeu de redistribution, c'est fondamental. Maintenant, c'est vrai que c'est une réalité. Moi, dans mon enquête, les gens qui m'ont dit être retournés dans leur département d'origine, dans la très grande majorité, ils ont changé d'emploi. Ils sont passés soit d'une grande structure à une plus petite.
Ou alors c'est une reconversion.
Ils se sont reconvertis. Mais oui, c'est une expérience tellement fondamentale qu'on se pose des vrais choix, des vraies questions sur ce qu'on veut. On se pose en fait aussi la question de qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie. Et peut-être que pour certaines personnes, peut-être oui qu'il y a moins de perspectives d'évolution, mais a-t-on toujours besoin d'évoluer? Est-ce que c'est toujours un but, une ambition pour tout le monde de gravir les échelons? On peut aussi peut-être faire autre chose, expérimenter d'autres types de secteurs et voilà, ouvrir une nouvelle page de sa carrière aussi.
Et effectivement, c'est des vraies questions qu'on se pose, notamment depuis le Covid, mais ralentir sa manière de travailler, le faire différemment. Vous dites d'ailleurs dans votre livre qu'il y a beaucoup de gens, y compris à Dunkerque, qui veulent essayer de ramener la diaspora dunkerquoise justement pour dynamiser aussi la région. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est la réaction de votre maire. Vous dites, j'ai perçu dans son regard une forme de scepticisme. D'un côté, elle était contente que je me rapproche géographiquement d'elle. De l'autre, le retour à Dunkerque sonnait comme un renoncement à l'idée de carrière. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Et en fait, c'est là qu'on réalise à quel point il y a les propres choix, évidemment, que l'on fait. Et puis, il y a le regard des autres, en fait. Je disais tout à l'heure en introduction c'est quoi l'accident de la vie qui fait que tu rentres ? Quoi, t'as divorcé ? Quoi, t'es malade ? Quoi, t'es fatigué ?
Mais parce qu'on associe le retour chez soi à un retour en arrière. On l'associe à une forme de renoncement, voire de synonyme de déclassement dans les yeux d'un certain nombre de personnes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que nos parents, la génération des baby-boomers, qui a été biberonné à ce discours de on fait des études pour s'en sortir et puis pour aller dans les grandes villes et puis occuper des emplois dans des grosses entreprises ou en tout cas qui associe mobilité égale réussite égale métropole. Pour eux, c'est pas toujours évident de comprendre, mais en fait, pourquoi tu veux revenir ? Ils ont l'impression que on trahit un peu les espérances qu'ils avaient mis dans ce soutien aux études et à la mobilité. Or, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à questionner ce schéma, ce schéma-là, en fait.
On a un message de Arnaud sur WhatsApp, Damien Deville, qui dit « C'est un sujet qui me touche de près parce que j'ai moi-même quitté ma ville natale il y a 36 ans pour travailler à Paris. Je vis aujourd'hui dans le sud de la France, même si je ne m'y plais pas. Et l'idée de revenir un jour dans ma ville natale me traverse souvent l'esprit. Mais c'est aussi accompagné de craintes, celle de ne plus reconnaître ce que j'ai quitté, de voir que les gens et les lieux ont changé autant que moi. » Peut-être que c'est ça, Damien Deville, l'erreur de base qu'il ne faut pas faire, en fait. Ne pas retrouver la carte postale de son enfance. Parce qu'elle n'existe plus, la carte postale de l'enfance. D'ailleurs, on est tous vieux maintenant.
Elle n'existe plus, effectivement. Le territoire a évolué en même temps que nous-mêmes, on a évolué en partant ailleurs. Ceci étant dit, je pense que tous les territoires sont traversés par la complexité des mondes, en fait. Il ne faudrait pas croire qu'il y a des territoires qui sont moteurs et d'autres territoires qui sont périphériques. Il y a bien sûr des difficultés dans les territoires, mais les territoires ont toujours pensé le monde, si vous voulez. Et cela m'amène à dire qu'au fond... vous savez, il y a un proverbe africain que moi j'aime bien, j'ai vécu un peu en Afrique de l'Ouest pour des raisons familiales, et c'est l'histoire d'un étranger qui arrive dans un village, et il demande à un commerçant « comment sont les gens ici ?» Et le commerçant lui répond par une question « comment étaient les gens dans le village d'où tu viens ?» Il dit « ils étaient méchants et aigris ». Et un deuxième étranger qui vient, il pose exactement la même question au vieil homme, et le vieil homme dit aux deux hommes « vous trouverez exactement les mêmes personnes ici, des personnes joyeuses ou des personnes aigries ». Je vais vite parce que je pense que j'ai pas le temps de faire tout le compte, mais tout ça pour dire qu'au fond, chacun porte en lui son propre univers. Et dans les villages, on trouve également ce qu'on a envie d'y porter. On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe, elle est verte là où on arrose le sol, tout simplement. Et ça, je pense que c'est une posture à garder dans le territoire dans lequel on va.
L'herbe est toujours plus verte chez les autres jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon artificiel, comme dirait l'autre. Bonsoir Guillaume.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Et bien moi, c'était un témoignage, en fait. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Paris. Et en fait, entre Paris et Enghien-les-Bains, on a terminé par vivre à Enghien-les-Bains les dernières années. Et à un moment, pour fonder notre famille, on a eu envie de rentrer dans l'Ouest avec ma femme, d'où on vient. Et quand on a annoncé à nos voisins ou à nos commerçants qu'on avait décidé de partir, ils nous ont dit « mais vous êtes butés, vous êtes en train de partir ». Ils ne comprenaient pas parce qu'ils nous ont dit « parce qu'on est quand même très bien ici ». Et voilà, on n'avait pas le même cadre de référence, la même histoire. Et en effet, on avait envie, avec pour nos enfants, d'aller, de retourner dans l'Ouest. Maintenant, on habite à Rennes. Et en échangeant avec eux, voilà, on avait cette différence d'expérience, d'envie. Ils étaient très bien et on était en effet dans un cadre privilégié. Mais on n'était pas contraint, on n'était pas muté. On avait envie d'avoir ce projet pour évoluer dans un autre environnement. Et eux se sentaient très bien et comprenaient pas forcément pourquoi on avait envie de partir de cette région, certes agréable, mais qui ne convenait pas tout à fait à ce qu'on avait envie comme projet familial.
Merci beaucoup, Guillaume, pour votre témoignage. C'est aussi ce que je disais en introduction, Pauline Rochard. Y a des endroits où c'est très très bien, c'est très très beau, mais c'est pas chez moi.
Ouais.
Et là, c'est chez vous. C'est très joli, c'est ce que dit. C'est Nicolas Mathieu qui le dit d'ailleurs dans votre livre que vous avez interrogé aussi, puisque lui, il est retourné effectivement habiter en Lorraine. Et je sais plus quel est le terme qu'il emploie, mais il dit en gros, c'est pas forcément beau, mais c'est chez moi.
Oui, ils parlent de l'effroyable douceur d'appartenir quand leurs enfants après eux. Et c'est vrai que c'est une phrase, je pense, qui a résonné chez beaucoup de lecteurs. Parce que quand on a grandi dans un... Tout le monde, d'ailleurs, a grandi dans quelque part. Et on vit cette espèce de tension entre... c'est une espèce d'ambivalence. Et a fortiori dans des territoires qui ne sont pas des territoires de carte postale, comme vous le disiez. Alors, moi, j'ai grandi effectivement à Dunkerque. Mais pas à Dunkerque, qu'à côté, dans la ruralité plutôt industrielle, mais la campagne quand même. Et j'ai interrogé des gens qui ont grandi...
Chez vous, c'est Wormhout, et le passage où, quand vous partez, on croit que vous allez à Noirmout, ce qui est quand même un truc de Parisien consommé, c'est terrible.
On plaque ses propres représentations, et effectivement, les gens ne connaissent pas le nom de Wormhout, et c'est tout à fait normal. C'est pas la ville la plus touristique de France. Mais pour revenir à cette effroyable douceur d'appartenir, même si c'est pas forcément beau, selon les critères du tourisme. En fait, c'est chez nous, on est lié en fait à son milieu, à son paysage, aux odeurs, aux sensations que ça éveille chez nous. Et en même temps, il y a eu aussi des envies d'ailleurs. Quand on était jeune, on a voulu, pas pour tout le monde encore une fois, mais on a eu envie d'aller voir ailleurs, de s'en échapper aussi de son territoire. C'est ce que Nicolas Mathieu raconte beaucoup dans ses livres. Et en même temps, ce que je trouve intéressant là dans le témoignage de votre auditeur, c'est qu'il dit retourner dans son département d'origine, c'est pas forcément une punition. Enfin, en tout cas, ça peut aussi vraiment être un choix, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films et de livres sur ces sujets-là. Et souvent, quitter Paris, c'est suite à un accident de la vie, un burn-out,
Intéressant, c'est que il n'est pas impossible que ce genre de remarques, on les faisait beaucoup avant Covid, on les fait moins après Covid. En fait, on n'arrive pas de la même manière aujourd'hui quand on vient de débouler quelque part.
Oui, peut-être. En tout cas, je pense que les gens qui reviennent vivre là où ils ont grandi, c'est pas forcément pour vouloir réparer quelque chose. Juste, ils ont peut-être envie de revenir dans les lieux de leur enfance, et puis ça leur plaît de retrouver aussi le familier, une ville plus à taille humaine, voire son village d'enfance. Mais je suis d'accord, on ne retrouve pas la ville de son enfance, ni forcément les amis de son enfance. Et ça nécessite quand même pas mal de travail sur soi et de questionnement sur qu'est-ce qu'on est venu chercher et qu'est-ce qu'on veut y trouver aussi.
Alors il y a être à Paris et puis rentrer chez soi, être dans une autre grande ville, quelle qu'elle soit, effectivement, et rentrer chez soi, ou être vraiment plus loin et rentrer chez soi, c'est plus difficile. Il y a beaucoup de messages qui ressemblent aux vôtres. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Tania, pardon, excusez-moi. Tania d'abord, Stéphanie après, pardonnez-moi. Bonsoir Tania.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi je suis Tania, je suis de la Martinique et tout dans l'émission du jour fait écho à ce que nous on vit très souvent aux Antilles. C'est-à-dire déjà de s'en aller vers les grandes métropoles pour les études. C'est quasiment la moitié plus que de tous ceux qui ont des ambitions professionnelles particulières, parce qu'on n'est pas doté de tout chez nous. Mmh. Et ensuite, ça se transforme en une aventure professionnelle. Et vient ce jour où on se pose peut-être cette question de rentrer à la maison. Dans mon cas, je l'ai fait, donc je suis rentrée. Mais c'est une vraie réflexion qui peut être très déchirante. Puisqu'on grandit, on devient adulte dans ces nouvelles villes, souvent en hexagone. Et le retour au pays, il est émaillé de différentes questions et difficultés, notamment celle de l'emploi. Il n'est pas aisé de trouver un emploi qualifié et bien payé aux Antilles. Les places sont chères et également la reconnexion avec les amis d'enfance, la famille, le rythme de vie. On y gagne beaucoup puisqu'on a une qualité de vie qui, je pense, vous le supposez, est autre. Mm-hmm. Avec le soleil toute l'année, oui. Mais c'est pas toujours évident de se retrouver mm-hmm. et de trouver un fonctionnement, de retrouver mm-hmm. ses amis, de retrouver des modes de vie. La circulation, ne serait-ce que, c'est différente. Mais c'est une question qui est cruciale pour nos départements, nos régions, qui se voient dépeuplés de leur population d'origine face à tous ces défis. Donc pour moi, c'est un peu plus de 10 ans de retour. Je suis très heureuse de l'avoir fait. J'encourage tout le monde à le faire et votre émission prouve que ce changement, il n'est facile pour personne d'où qu'on vienne.
Ben voilà, c'est aussi à ça que ça sert, Tania. Merci beaucoup. J'aimerais bien une remarque, Damien Deville, sur le témoignage de Tania, parce que ça implique d'autres choses quand on a un chemin si lointain à faire dans un sens ou dans un autre.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui ressort de ces différents témoignages, je dirais comme ça, c'est effectivement, qu'est-ce qui structure ce sentiment d'appartenance ? Moi, je crois que c'est deux choses. Déjà, c'est une volonté. Vous savez, c'est Nkrumah, un indépendantiste ghanéen, qui disait ça. Il avait cette phrase très belle. Il disait « On n'est pas africain parce qu'on a grandi en Afrique, mais parce que l'Afrique grandit en nous. Mm-hmm. » Moi, j'aime cette phrase parce qu'elle peut marcher pour chaque type de lieu, mm-hmm. en fait. Mm-hmm. On appartient à un territoire, non pas parce qu'on a 3 générations au cimetière, mais parce que ce territoire inspire nos pas au quotidien. Ceci étant dit, cette appartenance, ce n'est pas un chemin tout rose, en fait. Mm-hmm. C'est un champ de bataille. C'est un tiraillement permanent. On est sans cesse tiraillé entre les amis qu'on souhaite et les amis qu'on a vraiment, entre ce qu'on espère pour le territoire et ce qu'il y a vraiment, entre les courbes paysagères qu'on imagine et celles qui strient finalement nos quotidiens ordinaires, quoi. Et ce tiraillement, il est très sain, en fait. C'est justement ce qui caractérise l'appartenance. Quand on vit pas ce tiraillement, soit on idéalise complètement un territoire parce qu'on y est juste en vacances, soit on a traversé un quartier, un village, on se dit « Oh, moi, je vivrai jamais ici ». Parce qu'on n'a pas vu la vie qui passait dans des couloirs, mine de rien. Quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, il faut ressentir ce tiraillement, il faut le travailler. Appartenir à un territoire, c'est tous les jours aimer et c'est tous les jours trahir ce territoire, en jurant qu'on va y partir, si vous voulez. Et qu'est-ce qui fait que finalement, on reste ? Je finirai peut-être par ça.
Allez-y.
Eh bien, c'est l'appartenance à un « nous ». Voilà. Mmh. C'est ça qui fait que malgré tout, on reste dans un territoire malgré tous ses défauts. Et ce « nous », il peut prendre des formes différentes. Il peut être lié à une terre et ceux et celles qui la font. Vous savez, on a tous au fond du cœur un très vieux paysage. Et jouer sur ces liens d'usage et d'affection qui nous relient à des lieux, ça peut mettre en mouvement. Mmh. Un « nous » se relie aussi à une école, à du service public. C'est d'ailleurs un enjeu. On parlait de lien. Mais évidemment, le lien se structure toujours à travers les lieux. Nous sommes en lien parce que nous sommes en lieu. Or, on perd ces lieux de lien dans les territoires, y compris par le service public, mais pas que. C'est bien sûr un immense enjeu que le retrouver. Et ce « nous » peut s'inventer aussi par la lutte, par exemple. Donc, c'est ça qui est important. Ressentir ce tiraillement et à partir de là, travailler des « nous ». Et je pense que avoir conscience de cela et puis le travailler dans nos engagements citoyens permet d'amener les territoires dans le bon sens.
Tous les jours aimer, tous les jours trahir. Je retiens cette phrase, Damien Deville, parce que vous avez raison. Et non seulement c'est joli, mais c'est pas grave d'aimer, évidemment, mais de trahir non plus. Enfin, je veux dire, d'aller aussi faire son chemin. Voici Stéphanie. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
On vous écoute Stéphanie.
Oui, alors bon, moi je voulais intervenir parce que comme je l'ai signalé sur mon message, moi je fais partie de ceux qui sont restés et qui ont vu revenir ceux qui étaient partis. Voilà, après quelques années, beaucoup des gens qui m'entouraient et avec qui j'avais créé un lien dans les décennies de jeunesse, dans les années de jeunesse, sont partis parce que le besoin des études, le besoin des liens familiaux, le besoin de fonder une famille, le besoin de la vie qui démarre a fait que ils ont été appelés à un coin ou à un autre de la France ou du monde. Et puis moi, mais malgré mes envies de les suivre parfois ou d'aller voir un petit peu ailleurs, je suis restée dans mon petit coin de territoire. Et puis des années, voire des décennies plus tard, j'ai vu revenir tout le monde parce que les envies ont évolué et le besoin qui est revenu vers le point d'attache.
J'aime bien la manière dont vous le dites. J'ai vu revenir tout le monde. Est-ce que vous avez eu la tentation de leur dire, je te l'avais dit?
Ah non, pas du tout, parce que ça aurait été malvenu. Déjà, je reviens à ce que disait une auditrice précédente. On peut pas être donneur de leçons dans ce cas-là. Voilà, les parcours de vie des uns et des autres, on peut pas se poser comme sachant pour personne.
Mais Stéphanie, est-ce que vous êtes toujours copain? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous, ou est-ce que c'est vous qui êtes venu en disant waouh, t'es rentré, reprenons les choses là où on les avait laissées il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans?
Pas du tout, parce que le lien, justement, le lien, malgré la distance, on a les uns et les autres toujours veillé à entretenir et à nourrir ce lien. Ce qui fait que quand chacun est revenu à des moments différents, on s'est rapproché, ce lien s'est toujours nourri et s'est toujours entretenu. Et quand les uns et les autres ont refait, j'allais dire, souche un peu, ou ont repris racine, là où ils étaient partis, parce qu'ils avaient aussi leurs attaches, les arbres et la petite forêt qu'on avait plantée bien des années auparavant a pu continuer à grandir, sans pour autant que rien ne soit on avait grandi, on avait vieilli, et sans que rien ne soit abîmé.
Merci.
Ou détruit.
Merci beaucoup Stéphanie pour le joli témoignage. Damien Deville, je sais que je dois vous lâcher dans une minute, donc je vous donne la parole pour le temps qui nous reste avec vous, en tout cas une petite minute. C'est joli ce qu'elle dit, Stéphanie. Évidemment, il y a aussi ceux qui restent et comment ils voient à la fois ceux qui partent, donc ce que ça déclenche chez eux, et parfois la joie de les voir revenir.
Oui, alors moi sur ce point-là, je dirais peut-être que je le savais déjà, mais si vous voulez, en retournant en Sarthe, ça m'a d'autant plus sauté aux yeux, c'est que parfois il y a un immense décalage, je trouve, entre ce qui structure le débat public à l'échelle nationale et ce qui induit la qualité des relations à l'échelle locale. Je vais vous donner un exemple un peu d'actualité, sans vouloir faire de polémique, mais voilà, des débats comme, le wokisme, ou des choses comme ça. Non, finalement, aucune réalité locale, gens n'en parlent pas. D'une part, parce qu'il n'y a pas... quand bien même...
On est en train de vous perdre, parce que je me rends bien compte que vous avez commencé à bouger, et donc on est en train de vous perdre. Mais je vais reprendre la phrase où vous l'avez laissée. Je vous remercie mille fois, Damien Deville. Il a raison, Pauline Rochard. Il y a des conversations qu'on n'a pas dans certains coins, en fait, ou des préoccupations qu'on n'a pas. On n'y est pas, quoi.
En tout cas, effectivement, on attend...
Et ça fait moins d'étincelles, surtout, que quand on en parle éventuellement dans le 12e arrondissement de Paris, en fait.
Oui, et dans le débat médiatique, on aime opposer ces grandes discussions qui, soi-disant, structureraient les conversations du quotidien. Est-ce que tu es pour ou contre le wokisme? On n'en parle pas en ces termes. On parle de choses beaucoup plus concrètes. Parfois, on entend dire, dans certains territoires, on ne parle pas politique. Bien sûr que si, les gens parlent politique toute la journée. C'est juste qu'ils ne parlent pas de la petite phrase qu'ils ont entendue à la matinale de France Inter. Ils ne commentent pas ce genre de petite phrase. C'est pas qu'ils n'écoutent pas cette radio, c'est juste que eux, leur rapport à la politique ou aux idées est beaucoup plus concret. Ils vont parler des classes qui ferment, du type de commerce qui ouvre ou qui ferme dans leur ville. Ils vont parler effectivement de la désertification des services publics, le fait que le planning familial qui était là ferme, et que donc du coup les jeunes femmes n'ont plus accès à ces personnes qui prennent en charge les jeunes.
Ils vont parler des discussions qu'il y a eu sur les ronds-points
voilà,
2018
donc,
et
tout ça est politique, et ça structure les conversations du quotidien, mais c'est juste qu'on n'en parle pas de la même manière. On est moins peut-être dans la théorie, mais on est dans l'expérience, dans l'éprouvé, mais ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, et parfois moi je trouve que c'est ça l'intérêt de revenir, c'est que du coup peut-être qu'on redescend un peu et qu'on parle de choses avec un angle d'entrée.
Bien sûr, et puis qu'on se rend compte, surtout après tout, vous êtes à Paris, vous n'avez pas besoin de voiture, vous n'avez besoin de rien pour emmener vos enfants à l'école, et puis subitement, il va falloir en acheter une, peut-être deux. Et il y a tout ça aussi qui fait que ce que vous saviez empiriquement, vous êtes obligé de le faire, et ça change complètement votre perspective. J'imagine que ça a été votre cas, non ?
Exactement, quand vous avez dit empiriquement, pour moi c'est un mot très important. Par exemple, quand on parle des sujets sociétaux qui soi-disant allumeraient le feu aux poudres dans nos campagnes ou dans nos petites villes, ça serait le féminisme ou l'écologie. Mais sauf que... la question, par exemple, de l'écologie et de l'accès au transport en commun ou de la dépendance à la voiture, il faut effectivement le vivre pour comprendre à quel point c'est structurant dans son quotidien de vivre dans un territoire où, en fait, vous n'avez juste pas accès au transport en commun. Donc, vous êtes obligé d'être dans votre voiture.
Voici Youn qui est en Bretagne. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, moi je suis fonctionnaire, je suis enseignant, donc j'ai eu un premier poste en banlieue parisienne. Et les premières années, j'ai essayé de retourner en Bretagne, c'était impossible. Et donc au bout de 23 ans, j'ai réussi à réintégrer l'Académie de Rennes. Après les attentats, ce sont les attentats parisiens qui m'ont décidé à quitter Paris. Mmh. Et là, ça fait 9 ans que je suis en Bretagne et j'ai qu'une envie. Et j'espère que c'est ma dernière année dans l'académie. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver Paris. Retrouver Paris où j'ai eu mon dernier poste dans le 19e arrondissement.
Mais c'est quoi? C'est les, j'imagine, j'en sais rien, les cinémas, le théâtre, les expos, c'est tout ça?
C'est ça, c'est ça. La vie culturelle, et puis autre chose également, les déplacements. Je vois, moi j'ai été muté dans une petite ville, et pour les déplacements, il n'y a que la voiture. La gare, on n'est pas desservi par le TGV, donc le moyen de déplacement, c'est la voiture pour tout, quoi. Et c'est un inconvénient. Et l'autre inconvénient aussi, c'est que c'est l'accès aux soins. J'ai mis plus d'un an pour trouver un médecin.
Ben oui.
Et voilà, j'ai qu'une envie, c'est de retrouver la vie culturelle parisienne. Et j'étais privilégié quand j'habitais à Paris, puisque j'avais un petit pavillon à Arcueil, et au fond du jardin, il y avait l'accès au RER B qui pouvait me transférer à...
Il y a des Bretons qui vous écoutent, ils doivent être en PLS. Mais j'entends ce que vous dites et je trouve ça vraiment intéressant. Merci beaucoup pour ce témoignage, Youn. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un renoncement à ça, Pauline Rochard, ou pas? Moi, je me rends compte en étant parisienne que quand je ne l'étais pas, j'ai l'impression que je sortais plus parce qu'au moins, il y avait tellement moins de choix qu'on allait de toute façon beaucoup plus facilement et donc en groupe vers quelque chose. Est-ce que vous, la vie parisienne, la culture parisienne vous a manqué ou pas?
Ah bah, moi, justement, c'est plutôt l'inverse du new monsieur. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en rentrant chez moi à Dunkerque, comme il y avait moins de choix en termes statistiques de nombre, on va dire, j'ai davantage investi la scène, le théâtre dans ma ville, parce que parfois à Paris, le fait qu'il y ait trop de choix, tu le choix en fait.
Oui,
et on se sent presque noyé sous la proposition et les offres culturelles. Ouais. Et donc on a toujours tendance à dire effectivement les Parisiens seraient plus proches de la culture parce que numérairement ils ont plus accès, il y a plus d'offres, mais c'est pas vrai. Il y a plein de gens parisiens n'y vont pas plus que des gens qui habitent dans les petites villes.
Ça coûte, par ailleurs, de toute façon.
Par ailleurs, ça coûte. Et qui, du coup, choisissent d'y aller.
J'ai fait Dunkerque, Paris, Clermont-Ferrand, etc. Toute une carrière professionnelle, nous dit Corinne, et ma vie, elle a pas mal changé, c'est Dunkerque. Je la retrouve, mon lycée et les lieux de mon enfance, ainsi que la grande place de Dunkerque, mais j'ai besoin d'un GPS, nous dit-elle. Et je la réapprivoise. Vous avez besoin d'un GPS au début, ou pas, Pauline Rochard?
Pas vraiment de GPS, mais en tout cas, la question de réapprivoiser sa ville, de se poser des questions sur avec qui on a envie d'être, qu'est-ce que ça raconte de nous dans le territoire, etc. C'est sûr qu'il y a, ça pose des questions de se réapprivoiser les uns les autres, en fait.
Vous m'avez fait marrer, vous dites personnellement, j'ai complètement lâché sur le style depuis que vous êtes rentré à Dunkerque, effectivement, beaucoup plus décontracté. C'est un passage qui m'a fait rire, Pauline Rochard, merci mille fois, ça s'appelle Ceux qui reviennent aux éditions Payot.
Merci
à tous pour vos appels.